béni. Bonjour à tous. On va commencer par invoquer Saint-Esprit. Viens, Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Envoie ton Esprit, Seigneur, et toutes choses seront créées, et tu renouvelleras la face de la terre. Ô Dieu, illuminez les cœurs de vos fidèles avec la lumière de l'Esprit Saint. Accordez-nous de penser ce qui est droit selon ce même Esprit et de jouir toujours de sa consolation. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Jésus, doux et humble de cœur. Ô Marie, conçue sans péché. Alors, est-ce qu'il y a nécessairement besoin que je rappelle un petit peu le... Oui, ouais, d'accord. Donc voilà, on attend. Le charisme. Voilà. Bonjour. Alors c'est très simple, mais malheureusement, c'est nous qui avons tendance à le compliquer. Donc il s'agit de choisir une heure, tous les jours, la même heure. Donc c'est un rendez-vous d'amour avec le cœur de Jésus. Et pendant cette heure, on va tout faire, ce qu'il fera du moins de cette heure, avec le cœur de Jésus pour le consoler de notre ingratitude et après, bien sûr, de ceux de nos frères et sœurs en humanité. Donc, si on oublie l'heure, c'est pas un péché. On supplée au moment où on y pense. Par contre, dans quelle démarche on le vit ? Donc, on dit au commencement de l'heure, une prière d'offrande, on se met intérieurement en présence du Saint-Sacrement, de la présence de Jésus au Saint-Sacrement, donc la présence eucharistique. Et puis après, on va faire ce qu'on a à faire. Alors si on va faire des courses, si on a un coup de téléphone, si on repasse et du linge par exemple, ou si on prépare le repas, si on va chercher les enfants à l'école, on y va, ou si on va travailler, on y va avec le cœur de Jésus, et puis dans cette intention intérieure de lui offrir ce qu'on fait. Alors, à moins d'une grâce particulière, eh bien, personne, ne peut penser pendant une heure sans interruption à Jésus. Je vous dis, à moins d'une grâce particulière. Mais le commun, c'est on a tout de suite, notre saint fondateur ne restait pas moins d'un demi quart d'heure sans penser à Jésus. Donc, moi je suis sa digne fille, j'espère, mais voilà, j'ai quand même des efforts à faire sur ça. Et donc, c'est quand même difficile. Alors, il faut simplement se dire que mon heure, je l'ai orienté dans cette intention d'être en présence de Jésus. Si après mon esprit s'envole sur autre chose ou même s'accapare, ce qui est une bonne chose, à ce qu'on fait, hein, s'oriente avec attention à ce qu'on fait, eh bien, je dirais que c'est normal. C'est pas parce qu'on n'est pas à penser à Jésus que ce qui est en train de se faire n'est pas offert. C'est l'intention qui compte. Hein. Et voilà, donc c'est... J'aime à le dire, mais tout le monde pourrait le dire à ma place, que c'est vraiment une école de sanctification facile, on va dire. Le fait de penser à Jésus dans ce qu'on fait, eh bien, à notre insu, et des fois, bien sûr, et c'est pas pour autant sans notre accord, eh bien, donc avec notre accord, il nous change de l'intérieur. Le fait de faire la cuisine tout en pensant à Jésus, on le lui offre. Eh bien, si justement il y a quelque chose qui ne se déroule pas comme on avait prévu, par exemple la mayonnaise ne prend pas comme on souhaiterait, eh bien, comme au début on sait qu'on l'a fait et on le fait pour lui, ça nous aidera à ne pas nous énerver contre nous-mêmes, ou pourquoi pas d'accuser quelqu'un, parce qu'en général il faut toujours quelqu'un pour endosser la responsabilité. Eh bien, là on vivra autrement, quoi, c'est sûr. Hein. Et ça, petit à petit, c'est la charité de Jésus qui rentre en nous. Et ça, moi, je le redis, si on veut que notre monde change, par exemple, là, toutes ces lois perverses, même si, hein, on se dit à l'intérieur de soi, qu'est-ce que ça changera? Et si moi je change, qu'est-ce que ça changera? Ben non, je suis désolée. Si tout le monde se dit ça, eh bien, ça changera justement quelque chose. Donc, il ne faut jamais, jeter l'éponge et dire, de toute façon, c'est la franc-maçonnerie qui mène le monde, donc les lois, ils ont l'intention de les... eh bien, c'est pas ça du tout, quoi. Plus je change, plus je fais rentrer dans l'humanité l'amour, qui s'appelle Jésus-Christ mort et ressuscité sur la croix, et c'est ça qui nous sauvera, quoi. Hein. Même s'il y a tout un processus de destruction de l'homme qui vise à détruire Dieu, quoi. Mais ça, ils vont se casser les dents. Hein. Voilà. Alors aujourd'hui, à moins qu'il y ait des questions, mais je pense que voilà, c'est clair. Eh bien, je souhaitais voir avec vous, après notre petit détour de la fois dernière sur comment on peut analyser le confinement et puis la situation qu'on vit, à la lumière du catéchisme de l'Église catholique, mais aussi de notre engagement en tant que garde d'honneur. Aujourd'hui, on reprend un petit peu le cours de la vie de Mère Marie de Jésus de Lille Martigny, qui est donc la première délatrice de la garde d'honneur. Elle a beaucoup, beaucoup aidé donc Sœur Marie du Sacré-Cœur Bernot, la fondatrice de la garde d'honneur, et c'est elle qui va l'aider à répandre la garde d'honneur à ses débuts. Et pourquoi je m'arrête à cette figure? Parce que d'une part, donc, elle est la cheville ouvrière, elle est zélatrice, et puis on aura la grâce, donc l'année prochaine, le 10 et 11 avril prochain, de rencontrer, d'accueillir le père Lucchesi, qui est l'ancien général de la garde d'honneur, et qui en même temps s'occupe des sœurs de la Serviane, ou les filles du cœur de Jésus, dont la mère est fondatrice. Donc il se propose, hein, sur invitation, donc on a reporté ce que c'était prévu pour le mars dernier, et de nous parler de cette grande pointure, cette amante du cœur de Jésus, et voilà, je ne sais pas si on aura, bien sûr, sans avoir le temps de tout faire aujourd'hui, mais vous verrez ce qu'elle dit, hein, sur la garde d'honneur, sur la dévotion du sang et de l'eau qui jaillit de la plaie précieuse du cœur de Jésus. C'est vraiment très 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 beau. Et j'avais aussi abordé, mais ça je vais pas y revenir, sa lettre qu'elle écrit à ses filles pour le premier jubilé de son ordre, où là elle fait elle cite, hein, elle campe tout ce qu'on vit aujourd'hui, alors qu'elle le vit en 1870. Donc ce n'est qu'un éternel recommencement, mais on sent quand même que ça s'approfondit dans la descente, dans la difficulté. Alors voilà, notre sœur, donc Marie, elle est née à Marseille le 28 mai 1841 et elle a été baptisée le jour même. Elle est née de 5 enfants et elle hérite de son père, avocat profondément chrétien, de son courage, qui lui permettra de surmonter les difficultés de la vie, parce qu'elle va en avoir beaucoup. Et de sa mère, elle reçoit en partage une foi ardente, jointe à une grande délicatesse de cœur. Cependant, elle montre un tempérament impérieux, et quand vient l'époque de la première communion, ses parents, pour lui assurer une préparation sérieuse, la mettent en pension à la Visitation de Marseille. Elle fait sa première communion le 22 décembre 1853 et elle y reçoit le sacrement de confirmation le 29 janvier 1854 des mains de saint de l'évêque de Marseille. Donc vers l'âge de 15 ans, alors qu'elle est encore au pensionnat, elle réunit un petit groupe d'élèves appelé Oblates de Marie, qu'elle considère comme un petit ordre religieux avec règles, noviciat et profession, s'il vous plaît. Le groupe est malheureusement découvert et est dissous par les supérieurs. Mais elle avait écrit, parce qu'elle écrira les constitutions, les règles pour son ordre, mais elle avait déjà commencé avec ce petit groupe. C'est beau, hein, de se prendre petite fille déjà pour se donner à Jésus, mais ça n'avait pas plu aux supérieurs. Donc, à la fin de ses études, Marie fait une retraite décisive pour sa vocation. Et donc, à l'époque, on demandait, hein, d'écrire, était recommandé, de tenir un petit journal. Et voilà ce qu'elle y écrit. « Le plus noble usage de la liberté est l'entier sacrifice que l'on en fait à Dieu. La liberté n'est qu'un moyen de glorifier Dieu davantage en nous remettant à lui de plein gré. Nous ne pouvons user de la liberté que pour la soumettre à quelque chose. Préférerons-nous à notre Dieu, notre bon maître, une créature ou un désir de notre cœur? Quand il s'agit de la volonté de Dieu, rien, ni plaisir, ni quoi que ce soit de créé, ne doit arrêter une âme que Dieu a faite pour lui seul. Les plus étroites, les plus sacrées des affections humaines ne sauraient légitimer la moindre résistance à la volonté de Dieu. Obéir à Dieu est le premier et le plus essentiel de nos devoirs. Et que pourrais-je aimer ? Jésus-Christ est le seul aimable. La route qu'il m'indique mène au ciel. Tout le reste n'est que vanité. À la mort, je voudrais n'avoir aimé que lui. D'ailleurs, pour bien vivre dans le monde, je dois veiller, lutter, me faire violence, arborer le péché, fuir les occasions, haïr le monde et ce qui est du monde. Me sera-ce facile, à moi qui aime naturellement ce qu'il aime et qui craint les difficultés ? Quel fruit a produit jusqu'ici ma liberté criminelle ? Pour qu'il soit dur et pénible de la sacrifier ? Jésus-Christ est tout. L'opulence véritable est la pauvreté. Le vrai bonheur, c'est l'abjection. La plus parfaite liberté, c'est l'obéissance. C'est impressionnant, hein ? Aujourd'hui, c'est ce que vous voulez.
L'esprit du monde est contraire à l'esprit de Jésus-Christ.
Oui, tout à fait.
Il ne peut pas y avoir d'entente.
Non.
Jésus-Christ n'a pas prié pour le monde.
Oui. Venez et suivez-moi. Ô Dieu, que ce mot est beau. Il est à moi si je le veux. J'y trouverai la paix, le bonheur, le courage, le salut. À la plus grande gloire de Dieu pour le salut de mon âme et d'autres âmes. Combat et douleur dans le combat, mort à l'amour propre, à la volonté propre, au jugement propre, sacrifice du cœur, brisement des liens les plus chers, qu'est-ce devant l'éternité ? Qu'est-ce devant l'amour infini qui a poursuivi mon âme ingrate et coupable ? Oui, mon Dieu, je crois que je souffre, mais que je me sauve. Je veux vous donner autant que je pourrais vous donner, vous suivre d'aussi près que je pourrais vous suivre. Je veux tout ce que vous voulez. Et où irai-je ? Le passereau trouve une demeure pour moi, ô mon Dieu, votre cœur, votre cœur. Ô maître, vous serez mon maître toujours. Faites de moi ce qu'il vous plaira. Mais je vous supplie qu'il vous plaise de m'enfermer dans votre cœur et de me faire souffrir là quelque chose pour votre plus grande gloire et votre pur amour. Mon Dieu, écrasez-moi, mais sauvez mon âme et faites-moi la grâce de sauver des âmes, tout pour votre cœur et dans votre cœur, pour les temps et l'éternité. Voilà, ça donne un petit peu donc dès le début, hein. Un petit peu la mesure de l'âme de notre sœur en Christ. Et donc elle va à la fin de ses études, donc là elle fait cette retraite, et puis en rentrant chez elle, elle passe par Ars, le curé d'Ars. Donc avant de rentrer à Marseille, notre sœur décide d'aller essayer de se confesser à celui à qui la chrétienté européenne vient demander son chemin. Faites-moi connaître la route que je dois suivre. Marie passa 2 jours à Ars sans pouvoir rencontrer le Saint-Curé. Les chemins de Dieu nous surprendront toujours. Marie renonce à cette confession, mais avant de partir, elle décide d'aller prier à l'église paroissiale. Plongée dans sa méditation, elle sent une présence à ses côtés. C'était le curé d'Ars, à genoux, non loin d'elle. « Mon père, lui dit vivement la jeune fille, j'aurais bien voulu vous consulter au sujet de ma vocation. » Le saint vieillard, fixant sur elle ce regard pénétrant qui était allé au fond de tant d'âmes pour y voir leur passé et leur avenir, voilà qu'est-ce qu'il va lui dire. « Votre vocation, mon enfant, lui dit-il, ah, Vous avez bien des Veni Santé à réciter avant de la connaître. Donc c'est la prière qu'on a dite au début de la rencontre. Une invocation à l'Esprit Saint. Voilà. Donc ça va pas être si simple. Alors cet âme choisi, bien sûr, vous connaissez les procédés du Seigneur, et bien il va la purifier. Aussi, notre Seigneur permet-il qu'elle passe par de nombreuses épreuves intérieures, en particulier par une grave crise de scrupules. Voyant le péché partout, elle craint d'être séparée de celui qu'elle aime par-dessus tout. Vivre dans la pensée d'être mal avec vous, ô Jésus, écrit-elle, c'est mourir mille fois. C'est si dur, mon doux maître, de ne jamais vous sentir pleinement et d'attendre le ciel pour jouir de vous. Voilà, donc elle, en plus à ce moment-là, elle est aidée par personne, hein, elle n'a aucun directeur spirituel, il viendra après, en somme après qu'elle soit sortie de la crise. Donc sœur Marie du Sacré-Cœur, voilà, elle est en pleine crise et elle reçoit un tract de la garde d'honneur. Et donc elle renvoie une demande d'explication de ce que c'est que la garde d'honneur à sœur Marie du Sacré-Cœur. Donc le premier vendredi de février 1864. Donc la garde d'honneur l'attire et elle pressent là un chemin dans lequel elle pourrait avancer. Sœur Marie du Sacré-Cœur lui répond très rapidement. Et une complicité de cœur s'instaure entre ces deux femmes. Le talent de sa plume, parce qu'elle a beaucoup de talent, beaucoup de cordes à son arc, notre sœur Marie de Jésus de Lille Martigny, et conjugué filialement à celui de sœur Marie du Sacré-Cœur, fait tant merveille que la jeune femme est nommée secrétaire générale de l'œuvre. Et comme elle discerne de plus un appel à la vocation religieuse, sœur Marie du Sacré-Cœur l'encourage dans cette voie. Elle lui dit « J'ai une confiance sans limite que celui qui a déjà fait une série de merveilles pour vous amener ici vous révélera son plan, achèvera son ouvrage et continuera les mêmes miracles de miséricorde et d'amour envers vous. Pour vous et pour les âmes, ma certitude de votre avenir ne peut varier. » Elle est ferme en moi comme celui qui l'y a établi. Ne doutez donc jamais de l'appel de votre élection à une tâche si belle et si imposante, mais travaillez à vous en rendre un peu moins digne. » Donc elle lui demande de faire, elle l'invite à faire une retraite à l'intérieur de la clôture, c'est la spécificité de la règle de la visitation. Et donc suite à une confession qui va conclure sa retraite, donc le 27 mai 1865, tout son état intérieur de scrupule va venir. Et donc elle va être libérée de sa crise qui la torturait. Voilà, elle continue donc d'aider notre sœur Marie du Sacré-Cœur. Elle est à l'origine de l'hymne de la garde d'honneur qu'on chante à la fin des heures saintes et aussi au week-end de la garde d'honneur. Et puis, elles n'ont pas d'imprimerie. Hein. Donc, c'est que bien plus tard, je vois les cadrans, donc celui qui est là, elle les dessinait. Hein. Et elle envoyait les cadrans à la demande, bien sûr. Mais c'était elle, avec Sœur Marie du Sacré-Cœur, qui peignait, qui dessinait les cadrans. Les billets délateurs qu'écrira Sœur Marie du Sacré-Cœur, c'est Sœur, donc c'est Marie, hein, parce qu'elle n'est pas encore religieuse à l'époque, c'est elle qui va les réécrire pour les envoyer. Et comme elle n'en pourra plus, elle finira par leur dire, bah, faut les imprimer, quoi. Parce qu'il y avait de plus en plus de demandes. Et voilà un petit aperçu de ce qu'elle écrit. Pour faire sa publicité. Vous savez que la garde d'honneur a pour spéciale mission d'honorer le cœur de Jésus blessé par la lance sur la croix et d'attirer sur l'Église et les âmes une particulière effusion de cette plaie d'amour. Indiquez ce moyen à votre chère communauté et à tous les associés que la Providence vous enverra. Un simple élan, une simple intention de l'âme suffit. Mais, n'est-ce pas, c'est un beau spectacle que de voir à chaque heure du jour une légion de garde-honneur recueillir dans la coupe de leur cœur le sang et l'eau de la divine blessure et les offrir par Jésus à l'adorable Trinité. L'Église est au calvaire, on pourrait le dire aujourd'hui. C'est le moment de se grouper près du cœur de Jésus blessé sur la croix. À une supérieure de la Visitation de Luc, en Italie, elle écrit « La garde d'honneur est une vraie fille de votre institut. » Je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, on en est toutes conscientes, en tant que supérieure de la Visitation. Et une fille de choix, c'est votre institut, car votre institut est fondé sur le mont du calvaire, comme il est dit dans vos écrits, c'est vrai, et la garde d'honneur y est aussi fondée, et encore mieux, si j'ose le dire, car elle est fondée sur la plaie d'amour du cœur même de Jésus. Il ne faut point s'étonner après cela qu'elle produise tant de bien dans les âmes, qu'elle soit comme une source de bénédiction pour tous les lieux où elle est établie. Ce cœur magnifique en ses dons a confié à ses fidèles garde-honneurs une mission sublime. Donc ça, c'est à vous que ça s'adresse. C'est de l'entourer et de le consoler au Saint Tabernacle, nouveau calvaire où notre froideur, notre indifférence lui font souvent retrouver l'isolement du Golgotha, et où nos outrages et nos ingratitudes le percent et le blessent plus cruellement que la lance du soldat romain. Puis Jésus a placé dans les mains de ses gardes-honneurs, d'une manière spéciale, le sang et l'eau sortis de la plaie de son cœur, ce sang divin, divinement pur et riche, puisé aux sources mêmes de la vie, fleur et suprême épuisement de l'amour. Et les garde-honneurs l'offrent sans cesse à la Sainte Trinité comme une oblation très excellente. Comment voulez-vous que notre Père des cieux ne se laisse pas fléchir en face de cette suprême effusion du cœur de Jésus, lui criant qu'il a donné son sang tout entier pour notre salut et qu'il n'a pas même voulu garder en ce divin cœur les dernières gouttes de ce sang que la mort y avait laissé renfermer comme un trésor suprême, mais qu'au contraire, il a voulu faire ouvrir pour nous, par la lance du soldat, le secret de ce trésor et la source des eaux vives. » Voilà. Elle avait 24 ans hein, quand elle écrit ça. Donc voilà, dans tous ses écrits, et si vous venez aux heures saintes, la plaie est très très présente dans ses écrits. Et je crois que le Père hein, d'abord se proposera de parler de ce mystère de cette plaie. Où elle va en somme fonder, parce que leur fondation c'est d'être garde d'honneur, hein, les filles du cœur de Jésus sont garde d'honneur. Mais voilà, et du coup, quand on voit aujourd'hui, si je m'arrête un petit peu dans le récit de sa vie, eh bien, en tant que garde d'honneur, donc voilà, je m'unis à Jésus présent au tabernacle et j'offre tout ce que je vais faire pendant mon œuvre, et prenant conscience qu'il mendie cet amour avec lequel je fais les choses, et pas les choses pour elles-mêmes, ça sert à rien du tout, c'est l'amour avec lequel je fais les choses, que ce soit d'ouvrir une porte, ou comment dirais-je, soigner un malade, et ou faire mes courses, eh bien, elle recadre, elle redonne la dimension spirituelle de la garde d'honneur en nous invitant à faire couler, à recevoir dans notre cœur le sang et l'eau qui jaillit du cœur de Jésus et pour le répandre sur l'humanité. Hein, elle dit, hein, pour que notre Père du ciel nous regarde avec miséricorde, hein, et pour qu'il a, le Seigneur y voit le sang de son Fils. Et ça, on peut tous le faire en faisant des choses des plus banales. Et quand on l'a, nous, enfin, avec vous, j'imagine, on prie pour tous ces manifestants qui déambulent à travers les grandes villes, en espérant qu'aucun opuscule de violence vienne de les rejoindre. Eh bien, voilà. Eh bien, moi, ce matin, c'est ça. Je faisais couler le sang précieux de Jésus sur la foule, et que j'imagine, hein, je les vois très nombreux, mais je sais qu'ils sont très nombreux. Et alors, dans la foi, ben voilà, c'est chacun sera soutenu, entendu. Bon, je cherche pas. Enfin, je dirais qu'on soit entendu de Jésus, c'est ça l'essentiel. D'être entendu de nos hommes politiques, ben bien sûr la démarche elle est faite dans ce sens, mais bon voilà, si c'est pas le cas, c'est pas pour autant que je me dirais bah ça a servi à rien. Non, ça c'est les gens qui désespèrent, hein, qui pourraient dire ça, en conclure ça, ce serait désespéré de la puissance du sang et de l'eau du cœur de Jésus. Impossible. Il nous a sauvés, on en est convaincus, on le sait. Donc, si ça n'aboutit pas à une modification de la loi, eh bien, au moins, j'aurais fait couler, hein, des grâces sur les manifestants. Et ça, c'est ma grande consolation, et ce sera la consolation du cœur de Jésus. Voilà. Donc, de quelle manière on peut vivre la manifestation en n'y participant pas, parce qu'on n'a pas pu s'y joindre pour des raisons X et Y, quoi. Et en étant dans notre vocation de garde d'honneur. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ouais. Ouais. Elle dit bien que c'est. Elle met beaucoup l'accent sur l'isolement de Jésus au tabernacle. Hein. Donc pour elle, c'est le grand solitaire. Donc c'est pour ça qu'elle mettra dans son ordre l'adoration, pas perpétuelle, mais elle se relie les unes derrière les autres à l'adoration, parce qu'elles sont semi-contemplatives. Mais voilà, cette présence donc du cœur de Jésus dans le tabernacle, dans l'Eucharistie, qui n'est pas honorée par la présence des fidèles, parce que bah, c'est sûr que, et là aujourd'hui, beaucoup de prêtres, hein, se plaignent du non-retour des fidèles à la messe dominicale, même des évêques. Eh bien, alors, c'est sûr, hein, qu'on se frappe la poitrine, mais à y regarder de près, ce n'est qu'une résultante, hein, de ce qui était en processus, en mise en place depuis des années, c'est clair. Ceux qui ont repris le chemin de la messe dominicale, ben c'est ceux qui croyaient, quoi, et qui croient aujourd'hui, hein. Donc, je vous dis souvent, je vous l'ai souvent dit, ne n'allez pas à l'Eucharistie poussé par celui de derrière et tiré par celui de devant. On a oublié, et ça rejoint, hein, la démarche donc de réparation, de faire couler le sang et l'eau du cœur de Jésus sur la foule. C'est avant tout Jésus qui a envie de se donner à moi dans l'Eucharistie. Beaucoup disent « je vais à la messe parce que j'en sens l'envie ». Aïe, et quand vous en sentirez plus l'envie, parce que ça va arriver, hein, ou un matin vous serez fatigué.
Parfois, c'est pas le sentiment.
Non, voilà. Ou vous serez fatigué, vous aurez mal à la tête, ou vous serez accaparé, ou voilà, ou la tentation sera là. C'est comme pour la prière, on le sait bien. Il y a des jours avec et il y a des jours sans. Donc on y va. Bon, on peut y aller, c'est certain, par commandement. Enfin, je veux dire, voilà, la résolution de. Ça tiendra qu'un temps, ça aussi. Pour se replacer devant Jésus et se dire, voilà, Jésus veut se donner à moi. Si vous l'aimez, vous aurez un peu de mal, à mon avis, de lui dire, non, ben, j'ai pas envie que tu te donnes à moi. Non. Donc, du coup, ben, c'est sûr qu'on ne va pas à l'Eucharistie, on ne va pas à la Sainte Messe, on ne va pas le chercher, ben, parce que, ben, voilà, ça fait partie d'un rite du dimanche. Parce qu'on y a aussi ça. Hein. Et du coup, prendre conscience que Jésus a avant tout désire un amour fou de se donner à moi, avec tout ce que ça représente, d'exigence. Donc du coup, bah, je passerai peut-être me confesser avant, parce que voilà, il y a des petites choses qui sont peut-être pas trop en règle. Et puis, ou alors ma confession remonte à plusieurs mois. Et puis, si c'est pas plusieurs années. Et puis, voilà, enfin, vivre cet échange de cœur que Sainte Marguerite Marie a vécu. et que nous, en tant que gardeurs, on est tous appelés à vivre. Hein. Donc voilà, alors oui, c'est la même démarche pour faire couler le sang précieux, c'est avant tout Jésus qui vous, en tant que gardeur, vous susurre à l'oreille du cœur, rends ton devoir, fais ton devoir de gardeur et fais couler mon sang sur la foule comme sur telle et telle personne avec qui vous rencontrez des difficultés ou qui a besoin de changer son cœur. Voilà. Alors elle continue, notre sœur, que vous êtes heureuse, elle écrit à sœur Marie du Sacré-Cœur, que vous êtes heureuse derrière vos grilles, ma sœur, toute seule à lui seul. Il y a si peu de cœurs où il soit maître, roi absolu, propriétaire, si l'on peut ainsi parler, même parmi les cœurs qui lui sont consacrés. Ô Jésus, que votre règne arrive. Vous savez que la garde d'honneur a pour spéciale mission d'honorer le cœur de Jésus blessé par la lance sur la croix et d'attirer sur l'Église et les âmes une particulière effusion de cette plaie d'amour. Ah tiens, je vais attirer. Alors maintenant, on approche, elle va rencontrer son directeur spirituel. Alors, il s'agit du père Calage. C'est aussi, donc il est jésuite. Mais alors, comme elle est promise à un avenir tout particulier hein, en fondant les filles du cœur de Jésus, il va lui faire rencontrer un grand directeur spirituel. Alors, donc ce père, donc, il va avoir tout petit enfant une vision du martyr avant de connaître notre sœur. Il va avoir une vision du martyr de sœur Marie du Sacré, sœur Marie de Jésus de l'île Martinique, qui va mourir, donc assassinée par un anarchiste. Et avant de la connaître enfant, donc je vais le compter, il ne saura pas bien sûr que c'est elle, mais il va être bien sûr très troublé par ce qu'il va vivre. Et quand il connaîtra cette sœur et qu'il verra comment elle finira sa vie, en somme, les pièces du puzzle auront pris leur place. Et ça rejoint un peu, comme vous êtes à la visitation, notre saint fondateur avait une vision, et notre sainte mère aussi, de l'un et l'autre. Pour commencer l'institut, avant leur rencontre à Dijon, en 1605, ils vont se voir en vision. Et là, mystérieusement, alors c'est pas une vision, mais c'est en tout cas, il aura une même expérience mystique de cette âme qui va lui être confiée. Je me trouvais à l'entrée d'une grande allée. J'étais prêtre. Et j'accompagnais au supplice deux vierges habillées de blanc. Donc c'est elle, sœur Marie de Jésus, et puis son assistante, qui va être aussi atteinte mortellement, mais elle va souffrir terriblement, mais elle n'en mourra pas. Je faisais cette réflexion. Mais enfin, pourquoi ces deux vierges vont-elles subir le martyr, tandis que moi, prêtre, je suis épargnée? Cela me paraissait singulier et j'en souffrais. En quittant cette grande allée, nous entrâmes dans une autre plus petite, et c'est là qu'une de ces vierges reçut le coup fatal. L'autre, que l'on martyrisait aussi, allait être immolée quand je me réveillais. Ce rêve me causa tant d'émotions et j'eus l'âme sous une impression de grâce si forte que dès le matin, je courus à l'église Saint-Pierre à Montpellier, et là je me prosternais devant le maître-autel. Je restais à genoux, fondant en larmes et abîmé dans la pensée de Dieu. Et sous cet effet de grâce, je demeurais jusqu'à midi, prosterné à la même place. État de grâce peu commun, je l'avoue, pour un enfant de 10 ans. Mystérieux, hein, quand même, hein, de connaître cet état alors qu'il est... qu'il est enfant, il sera prêtre beaucoup plus tard et qu'il ne connaît même pas cette sœur. Alors donc Jean Calage rentre au séminaire puis au noviciat des jésuites à Avignon. Il est le plus fervent des novices Il nous faut aller à Dieu, disait-il, par la volonté, sans tenir compte des attraits et des répugnances, disait-il un jour à un de ses compagnons, dont la détermination semblait à un moment chanceler. Et cette parole raffermit le jeune novice ébranlé. Donc il est dans la même veine que notre sœur quand elle dit, hein, quand elle veut mettre sa liberté, faire mourir sa liberté pour choisir Dieu. Jean Calas fut ordonné prêtre à Valls le 21 décembre 1834 par Monseigneur de Bonalde. Le saint religieux ne se rappelait jamais sans une vive émotion les joies de sa première messe. En 1841, le père Calas est affecté à Marseille, l'église des pères jésuites, et cette église était proche des allées de Mélan. La rencontre de Marie avec ce futur confesseur est racontée en ces termes. On est le dernier vendredi de décembre 1866. Comme j'assistais dans l'église des Jésuites, c'est sœur Marie de Jésus qui écrit, à l'exercice de la bonne mort, Dieu inspira de telles paroles au père Calage qui prêchait sur le sang et l'eau sortis du cœur de Jésus, que je ressentis vivement l'impulsion intérieure de me mettre en rapport avec ce vénéré religieux. Je réfléchis quelque temps et j'y allais enfin. « Ah, mon père, lui dit-elle, dans un naïf sentiment d'admiration, je ne vous croyais pas ce que vous êtes. Quand je vous voyais occuper des enfants, des petits Savoyards, des femmes de Sainte-Anne, des ouvriers de Saint-Joseph, de toutes ces œuvres populaires et extérieures, je ne soupçonnais pas que vous compreniez si admirablement ce que vous avez prêché vendredi sur le cœur de Jésus. » Le père sourit avec cet air affable qui lui gagnait tous les cœurs. Naturellement, il fut question de la garde d'honneur. Il la connaissait depuis l'origine. Pendant que Marie parlait de l'œuvre qui lui était si chère et aussi de ses besoins spirituels, le père, tout en l'examinant et en l'écoutant, se demandait quels pouvaient bien être les desseins de Dieu en lui envoyant une âme si près de ses pensées les plus secrètes et si fort au-dessus de l'ordinaire. « Que ne vous ai-je connu plus tôt, mon père ?» lui dit Marie en le quittant. Souvent c'est ce qu'on dit, mais alors comme tout est conduit, quand on doit rencontrer quelqu'un, entre autres elle pour son directeur spirituel, qui va bien sûr beaucoup l'aider à répondre et du coup à fonder son institut, eh bien, avant, ça n'aurait pas fonctionné. Hein. S'il lui avait été donné de lire au fond de l'âme du bon et saint religieux et de soulever en même temps un coin du voile de l'avenir, elle y aurait lu que le révérend père Calage, envoyé à la résidence de Marseille l'année même de la naissance de la jeune fille, priait pour elle sans la connaître depuis cette époque et que ses prières n'étaient pas indifférentes à cette rencontre. Alors, on a un autre récit de cette première rencontre entre Marie et son directeur. Elle écrit le 31 décembre 1866 à Sœur Marie du Sacré-Cœur. Le père Calage, jésuite, célébrait la messe. C'est un homme populaire, saint à un haut degré. Il porte sur lui un extérieur austère, mais doux et humble, de la sainteté. Après la messe, il se tourne vers l'auditoire pour faire le sermon d'usage, que j'écoute peu, étant occupé d'une autre messe que j'entendais à l'hôtel voisin. Mais je suis tout d'un coup réveillée par les phrases suivantes du père Calage, que je vous cite aussi textuellement que ma mémoire a pu les retenir. « Mesdames, que donnerons-nous cette année au cœur de Jésus pour étrennes ? Tout à l'heure, au Saint-Sacrifice, lorsque je tenais notre Seigneur dans mes mains, je lui ai dit « Jésus, que pouvons-nous vous offrir cette année qui soit agréable à votre cœur et qui fasse du bien à nos âmes ?»« Eh bien, mesdames, voici ce que notre Seigneur désire. Il désire que nous lui offrions cette année le sang et l'eau qui sont sortis de son cœur sacré, ouvert par la lance après sa mort. Voilà ce qu'il veut. L'Église en a besoin. L'humanité vivante de Jésus-Christ a offert pour nous tout le sang de ses plaies sacrées. Mais quand notre Seigneur a eu expiré, qui donc a pu offrir notre manière actuelle le sang et l'eau, d'une manière actuelle le sang et l'eau qui ont coulé de son cœur? Mesdames, c'est l'Église qui en est chargée. C'est l'Église qui a été enfantée et créée par la blessure de ce divin cœur qui a le droit et la mission d'offrir le sang et l'eau qui en sont sortis. Le sang, c'est Jésus-Christ. L'eau, c'est l'Église et tous ses enfants. Et c'est pour cela que vous retrouverez le sang et l'eau mêlés au Saint-Autel dans le calice du prêtre. Offrez donc, vous, enfants de l'Église, ce précieux sang à Jésus. Il le demande et je le répète, l'Église en a besoin. Quoi qu'on vous donne pour offrir, dites-vous, « Ah, je préfère encore offrir une seule goutte de sang de la plaie du cœur de Jésus. » C'est surprenant que le prêtre n'ait pas dit, donc le père Calage, qu'est-ce que vous devez offrir cette année pour Étrenne? En général, on dit le cœur, je vais offrir mon cœur. Et là, offrir le cœur, son cœur à Jésus. Et là, Jésus, enfin à travers le prêtre, qu'est-ce que vous allez offrir, mesdames, au cœur de Jésus pour Étrenne? On peut, avant de se quitter, se dire, dans le contexte actuel des choses, avec ce qui se vit dans la rue, mais aussi personnellement, on a tout quelque chose de particulier aujourd'hui qui nous habite. Entendre cet appel du père Calage, même si c'est en 1870, qu'est-ce que Jésus me demande de lui offrir? Et la réponse, vous avez vu, mesdames, il vous demande, messieurs, de lui offrir le sang et l'eau sortis de la plaie du cœur de Jésus. Je trouve que la demande du cœur de Jésus, frère le prêtre, est surprenante en sachant qu'en général, quand on est garde-honneur, Jésus nous demande toujours de lui offrir notre cœur pour qu'il y ait ce partage des cœurs. Et surtout, c'est l'aboutissement, on le sait, de la dévotion au cœur de Jésus, qui est la consécration du cœur, de notre cœur. On lui confie tout ce qui nous habite, et en échange, on prend toutes les intentions du cœur de Jésus, et toutes les intentions du cœur de Jésus se résument à une seule, le salut des âmes. Mais là, le père Calage demande autre chose, le sang et l'eau. Et moi, je crois toujours que, comme cette sœur qui disait « Ah, si je vous avais rencontré mon père bien avant, qu'est-ce que j'aurais fait comme progrès ?» J'aurais avancé, alors qu'elle l'a marinée toute seule. Et on se fait, moi j'ai entendu bien des fois, « Si j'avais rencontré le garde-honneur avant, ça m'aurait évité bien des déboires, ou j'aurais pu, m'améliorer davantage, ou j'attendais ça depuis combien de temps, etc. » On se le dit tous, plus ou moins. Et pourtant, je vous le redis, tout est conduit par le cœur de Jésus. Il a le temps, c'est lui qui le conduit, c'est lui qui l'a fait. Rien ne lui échappe de nos vies. Donc s'il a voulu que nous entendions aujourd'hui ces paroles du père Calage, c'est pas juste pour faire bien dans le décor, ou pour vous occuper une heure de votre après-midi. Donc il y a une autre dimension bien qui nous dépasse et qui peut-être être même à l'origine d'un surcroît d'amour pour lui, mais aussi lui vis-à-vis de nous. Jésus nous demande de faire couler le sang et l'eau qui s'échappe de sa plaie. Il dit, l'Église en a besoin. L'Église en a besoin. Et souvent on se dit, qu'est-ce que je vais pouvoir faire quand je vois ou quand j'entends toutes ces nouvelles qui noircissent ma journée, faut bien avouer, c'est plus les ténèbres qui s'abattent sur nous. Et on se dit, mais oh là là, ils n'ont pas fini, mais où ça va s'arrêter? Quand est-ce que ça va s'arrêter? L'Église en a besoin. Ça, c'est... Et en plus, c'est le don de mettre en paix. On fait couler le sang, l'eau, et l'Église. On sait que l'Église en a besoin, et je réponds à la demande de Jésus. Donc, je n'ai pas à me torturer les ménages pour me dire qu'est-ce que je peux faire et est-ce que ça va suffire? Est-ce que je plais à Jésus? Jésus vous le dit. Votre cœur vous fera La paraphrase de ce qui précède. Notez que le père Kalai ne connaît peut-être pas même la garde d'honneur. Elle lui en parlera seulement après l'avoir entendue. Quand on doit entendre quelque chose, quand on doit rencontrer quelque chose, souvent on dit « Oh, ben non, c'est, oh là là, c'est, ben oui, c'est Jésus, quoi, hein, qui est le premier acteur de nos vies. C'est pas nous qui conduisons nos vies. » Et voilà ce que notre Seigneur a demandé à ce vrai saint, par une inspiration que rien d'extérieur n'a aidé, puisque l'exercice était en l'honneur du cœur de Jésus agonisant au jardin des Olives. Ainsi, voilà la suite. Le cœur de Jésus agonisant au jardin demande qu'on l'honore percé sur la croix. Imaginez si j'ai trouvé notre Seigneur admirable. En sortant de là, ma sœur Amélie me dit, qui accompagnait sœur Marie du Sacré, sœur Marie de Jésus, donc à cette messe, ce père Kalage a dit quelque chose de singulier. Et quoi donc, ai-je répondu? Ce que notre Seigneur demande pour Étrenne cette année. Mais certainement, ajoute Amélie, voilà 3 mois que je ne cesse d'être poursuivie par la même pensée. Et comme j'explique alors à Amélie que la garde a pour but d'offrir à Dieu le sang précieux du cœur de Jésus percé sur la croix, Amélie reste ébahie. Elle ne s'en doutait même pas, après me l'avoir entendu dire 100 fois et l'avoir lu dans toutes les prières de la notice, ce qui prouve bien que 1000 fois, on voit sans voir, et que ce n'est qu'au moment où il plaît à notre Seigneur qu'on voit vraiment. Hein? Tout est conduit par Dieu. Je voulais vous écrire tout ceci le même jour, et alors toujours elle s'adresse à notre sœur Marie du Sacré-Cœur. Hier je l'ai oublié, je le fais aujourd'hui, pensant, et vous serez bien aise d'avoir pour étreinte de cœur cet encouragement envoyé par notre Seigneur lui-même à la douce mission de la petite garde. Notre Seigneur s'étant servi pour nous, le donner d'un vrai saint qui ne s'en doute pas. Voilà, bien sûr, le père Kalage était loin d'imaginer que sa naissance ignore qu'ils sont saints, heureusement. Quand on le sent, il faut prendre ça sérieusement, ce qu'il dit, et puis s'humilier intérieurement, parce qu'à mon avis, ce n'est pas de la sainteté, mais c'est de l'orgueil qui est en train de se gonfler. Je vais m'arrêter là, et on poursuivra la prochaine fois. Donc, elle en est à ses débuts, mais dès le début, hein, le Seigneur, en tout cas, dépose dans son cœur cet amour de son cœur, mais surtout le sang et l'eau qui jaillit de sa plaie. Ça, c'est très, très, très. Elle insiste beaucoup, et dans tous ses écrits et dans l'ordre qu'elle va fonder, ça va être ça. Et je le redis, au risque de me répéter, c'est aussi une invitation, comme elle le dit. On passe des années, des fois, sur des textes, sur des paroles, et puis on n'imprime pas pour autant. Et un jour bien précis, et bien, parce que c'est celui que le Seigneur voulait pour nous, cette rencontre, on va dire, et bien, tout s'éclaire, tout s'illumine, quoi. Donc aujourd'hui, il faut croire que ça, en tout cas, doit avoir un caractère particulier pour chacun d'entre nous, parce que c'est ce que le cœur de Jésus avait à vous donner aujourd'hui. Je redonne les petits, pour ceux et celles qui souhaitent distribuer des bulletins de la garde d'honneur pour la faire connaître autour de vous, de garder dans la prière toutes les personnes de la garde d'honneur qui souffrent dans leur corps et dans leurs âmes, tous nos malades qui se confient à notre prière, et puis de prendre aussi dans la vôtre, donc notre humanité, tout particulièrement ces temps qui sont de la révision des lois de la bioéthique, hein, qui doivent nous être à cœur, hein, nous tenir à cœur. Et puis j'invite aussi, donc c'est la clôture le 16 ou 17, ça dépend où vous trouverez, si vous êtes à Paris Moignol, c'est le 17, la clôture de l'année jubilaire des 100 ans de la canonisation de notre Sainte Sœur, Sainte Marguerite Marie. Donc, si vous voulez assister à la Sainte Messe pour gagner la dernière indulgence, en passant la porte de clôture. Voilà. Il y aura aussi l'adoration jusqu'à l'être le 16 octobre. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? C'est clair. On va terminer par un petit peu de prière pour se reconfier au cœur de Jésus. Merci aussi pour ceux et celles qui ont, déposé des vêtements pour nos pauvres, parce qu'on a on a toujours des allées et venues de pauvres, et ces gens n'ont pas toujours la possibilité de faire leur lessive, etc. Quand les températures baissent, ils s'orientent vers les monastères pour demander de l'aide, quoi. Et un monastère féminin, c'est pas toujours facile de pouvoir répondre à la demande qui s'avère des fois masculine. Donc merci. Et puis je rappelle que le site est à nouveau accessible à l'adresse visitation-nantes.fr. Pas l'ensemble du site, mais une partie. Voilà. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. On va se confier à Notre-Dame, qui est la reine de France. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Cœur sacré de Jésus, Notre-Dame du Sacré-Cœur, Notre-Dame du Rosaire, Notre-Dame de la Visitation, Saint-Joseph, Saint-Jean, Saint-François de Sales et Sainte-Jeanne de Chantal, Saint-François d'Assise et Sainte-Marguerite-Marie, Bienheureuse Marie de Jésus, Bienheureuse Maria, Gabriella et ses compagnes, Sœur Marie du Sacré-Cœur vers nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Voilà, bon retour. Vous avez le soleil en plus. Exactement. C'est les dernières à mon avis. Oui, alors là, je mets en doute. C'est une heure qui me